RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Et le final de cette 9e étape du Tour de France approche. Nous sommes à moins de 20 km de l'arrivée, 17 km 313 exactement. La situation a évolué depuis tout à l'heure. On va faire un point avec toi, Pierre-Yves, car l'échappée de 8 s'est un peu dispersée.
Elle a implosé.
Et a implosé, exactement. Le top course est tout de suite.
17 km à parcourir, 28 secondes d'avance sur un petit groupe de poursuivants et surtout sur le groupe maillot jaune, il y a 54 secondes. Donc c'est ça qui est intéressant. On a quatre hommes en tête. On a Mathieu Van Der Poel, on a Tobias Johannessen, on a Alex Baudin, le Français toujours, qui fait une superbe étape, le coureur d'IF Education First, et Tom Pidcock qui a réussi à s'accrocher malgré des problèmes mécaniques. Ça veut dire que devant, on n'a plus de coureurs de l'équipe Lidl Trek. On est bien d'accord, Jérôme?
On a Quinn Simons intercalé encore, qui est en train de se relever.
Et il est à 40 secondes déjà.
Oui, il est en train de se relever pour rouler dans le peloton. J'espère que ça sera pas trop tard. Là, pour le coup, l'équipe Lidl Trek, pas folle la stratégie. Je pense qu'ils auraient dû faire ça avant, parce qu'il y a 54 secondes à 16 km de l'arrivée sur 4 costauds. Va falloir rouler fort dans le groupe Tadej Pogacar pour amener Mats Pedersen.
Et du côté de cette équipe Lidl Trek, il y a Carlos Verona, Mathias Kielmose et Derek G et Juan Ayuso désormais, et Quinn Simons peut-être dans quelques instants, qui vont pouvoir se mettre à la barre pour essayer d'amener Mats Pedersen à la victoire finale. Mais il ne reste plus que 16 km, ça va être une sacrée chasse. Et devant, tiens, ça y est, Quinn Simons prend la barre de ce groupe maillot jaune pour essayer d'amener Mats Pedersen à la victoire tout à l'heure. Mais devant, Alex Baudin, ouais, Mathieu Van Der Poel, Tobias Johannessen et Tom Pidcock ont 56 secondes d'avance actuellement.
Alors, ils sont effectivement devant, ils sont en train d'essayer de tirer Mats Pedersen, mais enfin, ils ont quand même beaucoup donné, GG, Simons et J. Est-ce qu'ils sont encore assez costauds pour ramener le peloton maillot jaune sur les hommes de tête? Jérôme Pinot, non?
Vous m'entendez là?
Oui, ça y est, on t'entend.
Allô, allô. Ouais, je dis, s'ils étaient très costauds, ils seraient restés avec les quatre coureurs devant. Donc ça veut dire qu'ils sont émoussés déjà. Et puis, on a mis tellement de temps à prendre cette décision du côté de Lidl Trek. Il faut savoir aussi, et ça, GG le sait, que le directeur sportif a dû, à de nombreuses reprises, leur demander à Derek G et à Simon, comment ça va, comment vous vous sentez, pour savoir quelle décision prendre. Et quand tu réponds que ça va, que tu te sens bien, et que dans la bosse, tu pètes, c'est pas bon signe. Et là, ils vont se faire taper sur les doigts. Ils ont plutôt intérêt pour les deux là à remettre les compteurs à zéro et à rentrer sur ce groupe, parce que sinon ce soir dans le bus de la Lidl Trek, ça va fumer, je pense.
Il y en a un autre qui est en train de se faire rattraper, c'est Lennart Van Etvelt, le coureur de la formation Lotto, qui tout à l'heure avait décidé lui aussi de réattaquer alors que Quinn Simons s'était relevé. Il est en train d'être repris par l'avant-garde du groupe maillot jaune, qui ne reprend pas grand-chose aux hommes de tête, hein, Pierre-Yves.
La situation est très claire désormais. On a à 15 km de l'arrivée quatre hommes en tête, Pidcock, Johannessen, Van Der Poel, Baudin, et à 55 secondes, donc, le groupe maillot jaune, emmené par les Net Company actuellement. Ils reprennent la barre avec Kevin Vauclin et les Lidl Trek pour essayer de ramener, mais je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent. Hein. Une minute, ça ne font pas pour l'instant.
Mais les 6 derniers kilomètres sont quasiment descendants. Il y a juste les 200 derniers mètres où ça va remonter un petit peu pour la dernière ligne droite et le sprint final. Compliqué de reprendre 55 secondes sur le groupe de devant quand c'est profil descendant. T'as 10 km grosso modo pour reprendre quasiment une minute. On est toujours sur le fameux théorème.
Il n'y en a pas qu'un. Il y en a quatre. Il y a du costaud. Quand t'as un Pidcock, un Baudin, un Van Der Poel et le quatrième, c'est un Johannessen. Là, c'est des moelleux, comme tu disais hier.
Je pense que la stratégie de Lidl Trek, c'était de voir si Quinn Simons allait pouvoir basculer la dernière difficulté. Mais après, il a continué, Quinn Simons, avec Van Etvelt. C'est là qu'ils auraient dû se relever tout de suite. Ils ont peut-être bouffé la feuille, là, Lidl Trek.
En tout cas, il y a un garçon qui est impressionnant.
Tobias Foss, hein.
Exact. Terminé pour Tobias Foss, 54 secondes. Et devant, notre Français, il faut dire un mot quand même d'Alex Baudin, parce que tu disais, il y a des costauds devant. Moi, je l'attendais pas forcément dans cette famille-là. Le petit gars d'Albertville, 25 ans.
Ah ouais, franchement,
superbe étape.
Incroyable étape d'Alex Baudin, qui nous régale depuis le début de ce Tour de France, comme il l'avait fait lors du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Il faudra retenir ce nom, Alex Baudin, avec les grands du peloton, là, à 14 km de l'arrivée. Ça va partir dans un instant à Wimbledon, la finale. Eric Salio, les deux hommes en blanc, sont entrés sur le Center Court et ne vont pas tarder à attaquer.
Fin de l'échauffement, end of warm-up. Donc ça va débuter effectivement. Sacha Zverev a gagné le toss et il a choisi de retourner. Choix tactique, payant ou pas, et bien on va être fixé dans les secondes qui arrivent, puisque là ça va débuter dans les 20-30 secondes.
Merci Eric, 17h10, on revient dans un instant pour les derniers kilomètres, les 10 derniers kilomètres de cette étape. Attention parce que l'écart à nouveau réduit. Ouais, 48-49 secondes d'avance à 14 km de l'arrivée.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
17h14, vous êtes sur RMC, les 10 derniers kilomètres de cette 9e étape, magnifique étape disputée sur les routes de Corrèze. On approche du sel, moins de 10 kilomètres désormais, et le suspense demeure entier, même si a priori Jérôme Coppel, on a l'impression que la victoire va se jouer entre les 4 hommes de tête, les 4 échappés. Ils le méritent amplement après le boulot qu'ils ont fait depuis le départ de cette étape.
Oui, ils le méritent amplement, surtout que dans 3-4 kilomètres ça sera plutôt descendant. 4 hommes de tête très très forts, et derrière, ils sont en train de tous dans la poursuite se garer un par un. Tout à l'heure, c'était 4 à l'avant, 4 à l'arrière qui chassaient. Là, on n'a plus que Verona et Kevin Vauclin qui a déjà beaucoup donné dans le groupe Mats Pedersen. Donc maintenant, on a 4 coureurs à l'avant très costauds, plus que 2 qui assurent la poursuite derrière. Avantage aux 4 hommes de tête.
Les écarts, on rappelle la composition de ce groupe de tête. Pierre-Yves, avec toi, le top course, tout de suite.
Moins de 9 km de l'arrivée, 4 hommes en tête. Le français Alex Baudin, accompagné de Mathieu Van Der Poel, Tobias Johannessen et Tom Pidcock. À 42 secondes, ça diminue quand même encore. Eh bien, on a donc ce groupe maillot jaune avec notamment Mats Pedersen. 8,5 km de poursuite. Ça va être intense, suspense à venir.
Et les gens sont sortis de leur maison pour applaudir les coureurs du Tour de France. Beaucoup de monde là ici à l'approche du sel. Il y a beaucoup de gens qui essayent de trouver un peu d'ombre, mais ils sont là pour encourager les coureurs qui ont fait une magnifique étape aujourd'hui. GG, on s'est régalé et c'est pas terminé. Donc 4 hommes, est-ce que tu penses que ça va rentrer derrière ou ces 4 hommes vont se disputer la victoire?
Alors j'espère qu'ils vont aller au bout parce qu'il y a un Français déjà devant, ça nous laisse une chance de gagner une étape pour nous côté Français, mais ils le méritent tellement, ils se sont tellement battus toute la journée qu'ils méritent d'aller au bout. La réponse, elle va être rapide, il y a encore un long faux plat ici avant vraiment de basculer vers Ussel, et je pense qu'ils en ont les moyens, je pense qu'ils peuvent se disputer la victoire, mais il ne va pas falloir tergiverser, il ne va pas falloir se regarder. La problématique dans ce groupe, elle s'appelle Mathieu Van Der Poel, parce que moi je suis Johannessen ou Baudin. À un moment donné, je ne roule plus, ou en tout cas, j'en garde, parce que piéger et arriver avec Van Der Poel, c'est faire deux. Donc ça va être compliqué, mais il ne faut surtout pas se démobiliser devant, ça va être très très chaud.
Très bien, la moto RMC, Maria, je crois que tu as le nom du combatif du jour. Tu as voté pour qui et est-ce que ton favori a été élu?
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il montera sur le podium de l'étape, mais en tout cas, il montera sur le podium de la combativité. Mathieu Van Der Poel, qui va être élu prix de la combativité du jour. Il a beaucoup roulé, évidemment, dans cette échappée. Il a connu un début de Tour de France pas facile avec son équipe. Hein. Il a bien lancé Philipsen au sprint sur les deux étapes, mais ça n'a pas fonctionné. Lui, raconté en interview cette semaine que c'était des débuts très difficiles et qu'il passait pas un très bon Tour de France. Voilà, il sera au moins prix de la combativité et peut-être vainqueur de cette étape. On le verra tout à l'heure.
Il n'a pas passé un bon Tour de France, mais il a quand même beaucoup bossé pour Philipsen, malheureusement sans succès pour son copain et son coéquipier Jasper Philipsen, qui n'a pas eu les jambes aujourd'hui. Il a tenté sa chance et effectivement il fait figure de grandissime favori s'il parvient à garder quelques secondes d'avance sur le groupe maillot jaune qui chasse derrière avec un retard pour l'instant inchangé. Pierre-Yves, 46-48 secondes
hein. Ça bouge pas trop pour le moment, mais parce que devant ça se regarde pas, on s'entend bien, on se relaie. Pidcock suivi de Mathieu Van Der Poel, suivi de Johannessen, on ne l'oublie pas ce garçon, il a fini 6e du Tour de France l'année dernière, c'est un sacré concurrent. Et puis le 4e à mettre les relais, c'est Alex Baudin. Jérôme Coppel, tant que ça se passe comme ça devant, ils vont avoir du mal à revenir derrière.
Non mais là, on peut quasiment dire que c'est fini. Dans 1,5 km, ils vont plonger vers Ussel pour les 5 derniers kilomètres. À l'arrière, ils sont plus que 3. On a Derek G qui a passé la journée à l'avant, qui bien sûr ses relais sont moins efficaces. Quinn Simon a sauté, on a Kevin Vauclin qui roule, et je pense que le dernier, j'ai pas vu le dernier de la Lidl Trek, on en a même plus que deux, Carlos Verona et Kevin Vauclin qui roulent, donc deux hommes à chasser derrière les 4 hommes de tête, c'est quasiment impossible. Et devant, Mathieu Van Der Poel est le grand favori, mais Tom Pidcock a l'air de vraiment marcher fort, il appuie ses relais, on sent qu'il est très bien, le coureur britannique.
Donc Schelmoser, Juan Ayuso, Jérôme Pinot, ils se mettent pas à la barre pour aller chercher une victoire d'étape?
Eh ben non, ils ont décidé de rester en retrait, de garder des forces pour la suite du Tour de France. Et c'est ce qui va certainement condamner Mats Pedersen. c'est quand même dommage de ne pas d'avoir fait tout ça. 6 km à rouler pour Ayuso et Skelmose. Si c'est ça qui les met dans le dur pour le reste du tour, alors ils ne feront pas sur le podium du tour. Donc c'est dommage de garder deux garçons. C'est all-in aujourd'hui. On n'a que 6 km, ça va descendre jusqu'à Ussel. Je ne comprends pas tellement la tactique Lidl Trek aujourd'hui, entre la tergiversation tout à l'heure de Derek G et de Quinn Simons. Maintenant qu'on ne fasse pas rouler deux coureurs qui sont restés dans les roues jusque-là, très étrange, mais à ce petit jeu, ils vont tout perdre, les Lidl Trek. Ils ne vont pas réussir à rentrer.
Ayuso, c'est à la limite, c'est compréhensible. C'est le mieux placé au général. C'est celui qui a le plus de chances de monter sur le podium. Mais Skelmose, là, il fallait l'envoyer. Et depuis un bon petit moment déjà.
Le sixième Tour de France de Mathieu Van Der Poel, qui, vous en souvenez, lors de sa première grande boucle en 2021, avait rendu hommage à son grand-père avec un maillot incroyable. Il s'était imposé à Mur de Bretagne, c'est cela. Hein, c'était ça. Dès la deuxième étape du... Première ou deuxième étape du Tour de France? La deuxième. Et qui avait récidivé l'an dernier en s'imposant à Boulogne. Il est le grandissime favori. C'est un immense champion que Mathieu Van Der Poel, vainqueur à multiples reprises de Paris-Roubaix, un homme de classique, mais aussi qui sait se faire mal dans les étapes du Tour de France. Ce serait donc son troisième succès, mais on espère, alors on adore Mathieu Van Der Poel, mais on aurait bien aimé et on aimerait bien que Alex Bodin, qui a fait lui aussi un travail formidable aujourd'hui, puisse y parvenir. C'est pas le favori pour la victoire si ça se termine à 4.
Ça se termine à 4, si on devait faire une hiérarchie, Van Der Poel, Pidcock, peut-être Bodin et Johannessen. Bon, quoi que Bodin et Johannessen, les deux vont assez vite, mais par rapport à Pidcock et Van Der Poel, ça paraît compliqué. Bon, on a une chance et demie de gagner, parce que Mathieu Van Der Poel, on le rappelle, pour ceux qui savent pas, il est quand même à moitié français, tu viens de le dire, avec Raymond Poulidor. Donc on a
une chance et demie.
On est dans le Limousin,
tout à fait.
C'est des souvenirs de famille. 5 km encore à parcourir. 35 secondes, hein. Attention, que 35 secondes. Donc il y a 700 mètres d'écart entre les hommes de tête et le peloton. Et ce sont toujours les nettes compagnies avec Kevin Vauclair.
Il n'y en a plus qu'un. Donc si l'écart est juste, je vais faire un petit écart après. Si l'écart est juste, c'est signe que Kevin Vauclair marche très très bien. Et là, les hommes de tête, voilà, c'est normal. Il y en a qui sautent un petit peu des relais, mais il ne faut pas se regarder trop loin de la ligne d'arrivée quand même. Hein. Ils ne sont pas loin derrière. Ils ont suffisamment d'avance, je pense, mais c'est pas loin.
Ah, ça revient. 39 secondes. D'écart. On est à 3,8 km de l'arrivée à Ussel, dans ce département de la Corrèze, et il continue à bien s'entendre. Comme Tom Pidcock, qui prend le relais cette fois-ci de Mathieu Van Der Poel. Bodin est en troisième position, Johannessen en quatrième. Ils sont à la queue leu-leu en belle file, alors que derrière ça revient 38-39. Il faut essayer d'en garder quoi, une vingtaine de secondes à la flamme rouge, GG.
Même pas 15 secondes, ça devrait suffire, parce que derrière. Ouais, derrière ils vont se décourager. Là on a Yonis Aguirre pour Cofidis qui roule, parce qu'il a Rambourou dans ce groupe pour qui le final pourrait bien convenir. Mais de nouveau, c'est un peu tard à 3,2 km de l'arrivée pour l'équipe Cofidis de venir. C'est trop tard. Ça va être chaud quand même. On sent très bien que les hommes de tête, et notamment Johannessen, collaborent beaucoup moins. C'est peut-être le moins rapide. Il va peut-être essayer, le coureur norvégien du NOX, de piéger les autres pour espérer remporter la victoire.
Et le travail incroyable de Mathieu Van Der Poel qui passe des relais énormes. Il a beaucoup, beaucoup bossé. Est-ce qu'il va lui en rester un peu pour espérer aller remporter la victoire sur son talent intrinsèque? Il est le plus fort, même s'il est un peu cuit là.
Et Tom Pidcock aussi a fait une étape incroyable. Il a bouché les trous sans arrêt. C'est lui qui vient de mettre le dernier relais. C'est sûr que personne ne s'est économisé dans les quatre devant, parce que Bodin a fait également beaucoup de travail. Johannessen continue à passer des petits relais. 35 secondes à 2 km 500. Ça risque d'être bon quand même. Ça risque de le faire pour les quatre hommes de tête.
Ah ouais, pour que ça se passe là, dans les quatre de tête, Jérôme.
Tout à l'heure, Alex Bodin a eu a été limite de péter dans la dernière, le dernier petit répé de chaud avant vraiment de basculer. Il y a Van Der Poel qui s'est écarté, il a pris 10 mètres, enfin 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, et Bodin lui a fait signe, non, vas-y, bouge. Il était vraiment au taquet. On sent que les trois coureurs sont à fond, ils sont à 100%. Le sprint, ça va être un sprint de mort, ça va être un sprint de celui qui va vouloir souffrir encore une dernière fois. Et attention, après des journées comme ça, à rouler, à écraser les pédales dans un effort violent sous la chaleur, avec un final où on peut plus se ravitailler, de pas choper les crampes dans le sprint et dans le dernier effort en lactate.
Le même geste pour deux hommes, Alex Bodin et Johannessen, qui resserrent le boa. C'est pas pour faire le coup du serpent, le boa, Jérôme, c'est avant c'était les calepiers. Là c'est le petit système qui permet de resserrer la chaussure.
Quand tu resserres les godasses, c'est que tu vas mettre une praline normalement. Donc les deux ont fait ça en même temps, et c'est marrant, c'est les deux moins rapides, donc ils ont peut-être une idée derrière la tête là, 1 km 500 de l'arrivée.
1 km 500 de l'arrivée, 27 secondes, le dernier pointage entre les quatre hommes de tête et Pitcock, l'avant-garde du peloton maillot jaune.
Pitcock qui a 1 km 300 boit dans son bidon, ça veut dire que là on commence à compter ses coups de pédale.
Ah, attention, on n'a pas trop les compter quand même.
Hein, oui, on va bien. Ça a mis du temps, Mathieu Van Der Poel a mis du temps à prendre le relais, il ne le prend même pas vraiment et bien sûr Bodin et Johannessen ne roulent plus. Attention, on arrive à la flamme rouge avec seulement 23 secondes. Hein.
La flamme rouge du dernier kilomètre, c'est maintenant pour Van Der Poel qui passe sous la flamme rouge.
RMC, la flamme rouge.
Ça va se jouer à rien parce que les quatre commencent évidemment à se regarder. Le mur final est devant eux, 900 mètres encore à parcourir. Mathieu Van Der Poel en première place, Tom Pitcock qui est juste derrière, Mathieu Van Der Poel qui a fait signe du coude, vas-y prends le relais. Il ne prendra pas le Britannique. Johannessen est en troisième position et Alex Baudin en quatrième. Derrière ils sont à 15 secondes seulement, ils vont sûrement fondre sur ce groupe. Il ne va pas falloir se regarder trop, mais ça devrait le faire. 600 mètres à parcourir et Mathieu Van Der Poel, Jérôme, qui est le premier pour l'instant et qui regarde derrière.
C'est pas la meilleure place et surtout personne ne veut le relayer. Attention à ce que ça ne revienne pas de derrière. Pour l'instant, le mieux placé dans les coureurs rapides, c'est Tom Pitcock. Bien sûr, il a pris la roue de Mathieu Van Der Poel. On va voir si ça va être suffisant.
Attention à ce que Mats Pedersen ne déboule pas derrière. Ah, parce que ils sont pas loin. Ils sont pas loin derrière les fauves. Et pour l'instant, ça accélère pas. Mathieu Van Der Poel, il garde encore et Mats Pedersen
qui accélère.
Il a démarré. Mats Pedersen, il a commencé son sprint. Si ça bouge pas, si Mathieu Van Der Poel ne décolle pas, il reste 300 mètres, ça va revenir de derrière avec Mats Pedersen. Pitcock ne bouge toujours pas, Johannessen non plus, ils sont gelés. Non, ça y est,
ça accélère.
Avec Mathieu Van Der Poel qui place son accélération, Johannessen en deuxième, Pitcock en troisième, Baudin en quatrième qui ne pourra pas s'imposer. Il est le plus costaud, Mathieu Van Der Poel, il est champion du monde de toutes les catégories. Van Der Poel vainqueur à Ussel. Mathieu Van Der Poel est champion du monde de cyclocross, il est champion du monde sur route, il est champion du monde de gravel, il est champion de monde de tout et il est champion aujourd'hui. Il s'impose à Ussel.
Magnifique victoire de Mathieu Van Der Poel, c'est une récompense magnifique pour ces garçons qui ont tout donné. Alors évidemment ils ne peuvent pas tous gagner, mais chapeau à ces quatre hommes, Jérôme.
Ouais, chapeau à ces quatre hommes et derrière ils vont avoir des regrets parce que même si le sprint a été un peu différent parce que tu ne joues pas la victoire, mais Philippe Ogana a battu Mats Pedersen hein, derrière, donc c'était chaud, il n'y avait pas beaucoup d'écart à l'arrivée. Mathieu Van Der Poel a vraiment joué avec les nerfs de ses adversaires et a lancé le sprint au dernier moment sur ses qualités, sur l'explosivité pure. Il a réussi à décoller ses adversaires, même si Johannessen surprenant deuxième.
Mathieu Van Der Poel qui lève les bras en vainqueur derrière la ligne d'arrivée où l'attendait sa fiancée. Voilà, il est récompensé, Mathieu Van Der Poel. Son tour de France est déjà réussi avec cette victoire. Il n'a laissé la chance à personne dans ce sprint. Johannessen s'est accroché quand même, hein, Jérôme, mais bon, face à la machine Van Der Poel, c'est impossible.
Ouais, ça a été compliqué. Ce que j'ai pas compris, c'est que Alex Baudin n'essaye pas dans la dernière rampe parce qu'il a attaqué le sprint en quatrième et je pense qu'il avait plus les cannes. C'est un beau symbole, hein, Christophe, cette victoire de Mathieu Van Der Poel, parce que on le rappelle, le petit-fils de Raymond Poulidor qui est d'ici, c'est son terrain. Raymond Poulidor de Saint-Léonard-de-Noblat, c'est l'étape près de Papy qui nous a quittés malheureusement, mais ces symboles-là pour Mathieu Van Der Poel, ça compte beaucoup et c'est la victoire d'un immense champion aujourd'hui encore. Il a été jusqu'au bout, c'est lui qui a assumé. Franchement, chapeau et tant mieux pour ces quatre garçons parce qu'ils ont tout donné, ils ont fait un spectacle de folie aujourd'hui et Lidl Trek a pouffé la feuille de match.
Et surtout, le symbole, il est fort aussi parce qu'on sait que sa fiancée Roxane Bertels, qui lui a fait le joli bisou à l'arrivée, eh bien, a annoncé en compagnie de Mathieu Van Der Poel que la génération des Van Der Poel allait se poursuivre parce qu'ils ont annoncé un heureux événement à venir dans quelques temps.
Est-ce qu'on sera là quand le fils de Mathieu Van Der Poel remportera sa première
place?
Merci, ça fait plaisir,
quoi,
les gars.
Je pense pas, non,
ici,
non,
je serai dans mon EHPAD et je vous encourage.
Ouais, mais t'entendras plus la radio.
Vous êtes vraiment des
sceptiques. Je vous déteste.
Paul Sexas, oui, non, l'enfant de Mathieu Van Der Poel, j'y crois pas trop quand même. Même si t'es fringant et très beau gosse, Christophe.
En revanche, c'est vrai que la génération et les gènes sont tellement incroyables dans cette famille. On rappelle, Mathieu Van Der Poel est le petit-fils de Raymond Poulidor, mais son papa, c'était un grand champion lui aussi. Hein.
Adrien, un très grand champion. Et on n'oublie pas que Mathieu avait un frère qui était professionnel aussi. Hein. Mathieu, il prend toute la lumière, bien sûr, et c'est le super champion. Mais son frère était aussi professionnel. Donc oui, ça se perpétue de génération en génération. Donc attention, si si Mathieu et sa compagne nous font un petit gars, ça craint pour les générations futures.
une image très sympa à l'arrivée. Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, grand sourire, qui sont tapés dans la main. Ils se bagarrent sur toutes les classiques de printemps. Et on sent qu'il y a de l'estime et presque de l'amitié.
Ils sont très très copains tous les deux. Ils roulent régulièrement ensemble. Non, ils s'entendent vraiment très très bien. Pour ça qu'à un moment, j'ai pas trop voulu le dire à l'antenne parce que les stratégies d'équipe sont différentes. Mais je me suis demandé.
Tu crois quoi, UAE, ils
vraiment
ont dit bon.
UAE allait. Mais non, il y a pas eu de ça du tout. Chacun fait sa course. Mais peut-être que Tadej Pogacar aurait eu plus de scrupules à revenir sur ce groupe, sachant qu'il y avait Mathieu, que d'autres personnes. Par contre, attention maintenant à Jesper Philipsen, parce que là, ils ont soulagé toute l'équipe. Jesper Philipsen a la pression, il se fait emmener par Mathieu Van Der Poel, il n'arrive pas à gagner. Là, ça va un peu relâcher la pression de toute l'équipe pour les deux sprints de la semaine prochaine. Philipsen va être peut-être un petit peu plus libéré. Un sprinter libéré, c'est un sprinter dangereux.
Libéré, mais avec des jambes un peu lourdes quand même pour Jasper.
Elles vont être nouveau plus légères quand ton copain gagne, plus légères quand même.
Forcément. On rappelle le classement de cette étape incroyable que nous avons vécue, Pierre-Yves.
Oui, et on va avoir quand même des on va être un peu déçu. Ah, il y a Mathieu Van Der Poel.
On va l'écouter. On va l'écouter. Traduction assurée par Jérôme Coppel.
On vous a vu un petit peu dans le dur sur les premières étapes du Tour de France. Et on a vu que ça allait mieux aujourd'hui. Vous l'avez prouvé. C'était très très dur aujourd'hui. Le début de tour n'était pas super pour notre équipe. Mais on est toujours resté calme. On a un très bon groupe, on a toujours continué à y croire. On ne savait pas quand ça allait nous sourire, peut-être aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on a pu gagner.
Sorry. Well, not really. It was for sure better than the first few days. I was really struggling and also had some difficulties.
Aujourd'hui, ça allait beaucoup mieux qu'au début du tour. J'étais beaucoup moins à bloc.
Already the past 2 days, I felt a bit better.
Les derniers jours, je me sentais déjà beaucoup mieux.
Easier days, but today I finally had some.
Pas les jours les plus faciles, mais je me sentais bien aujourd'hui.
Final sprint against Pidcock against Johannessen.
Yeah, I was.
J'étais face à Pidcock, Johannessen. Comment vous avez géré?
I spent a lot of energy trying to keep the brake alive. There was a lot of pressure from.
On a utilisé beaucoup d'énergie pour garder l'échappée vivante, garder un petit peu d'avance. Il y avait du vent de face quasiment toute la journée.
We fought for it and.
On s'est battu pour ça.
I'm happy to finish it off.
Et je suis très content d'avoir pu finir le travail.
There will be more episodes on this Tour de France.
Maybe it's a one-day festival, but at least it was a nice one.
Enjoy.
C'était un festival aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura d'autres.
On aurait bien aimé une petite question sur le triomphe de Mathieu sur les terres de son grand-père dans le Limousin, mais bon, a priori, on ne doit pas savoir que c'est le petit-fils de Raymond Poulidor. Il
faut faire passer l'info.
Ouais, faut faire passer l'info.
Le classement, Christophe, de cette étape ici à Ussel, victoire de Mathieu Van Der Poel devant Tobias Johannessen. Tom Pidcock est 3e, Alex Baudin 4e, Philippe Ogana 5e, Mats Pedersen 6e, Michael Matthews 7e, Nicolas Breuillard pour son premier Tour de France se place 8e derrière ses garçons que je viens de vous citer. Belle perf, et il est devant son leader Jordan Jegat 9e et Sean Quinn 10e. La belle performance de Nicolas Breuillard qui a vécu une belle journée aujourd'hui. Il était en forme, pas de changement au niveau du classement des maillots distinctifs, alors surtout pas du maillot jaune, hein. Tadej Pogacar toujours premier, maillot vert toujours pour Mats Pedersen. Il y a un petit peu plus d'avance même pour Mats Pedersen désormais, puisqu'il a 268 points contre 223.
45 points d'avance.
Pour Binyam Girmay au classement du meilleur grimpeur. Tadej Pogacar toujours devant. Il y a eu juste un petit rapproché d'Alex Baudin, mais c'est encore rien. Il faudra attendre les grosses étapes de montagne. Et puis pour le maillot blanc, maillot du meilleur jeune, il est toujours sur les épaules d'Isaac Del Toro.
Et on a vu un sprint incroyable entre Kevin Vauclin et Nicolas Prodhomme, qui sont arrivés après le groupe maillot jaune. Il a fait un drôle de boulot aujourd'hui, Kevin Vauclin. Il a emmené le groupe maillot jaune pour essayer de revenir sur les quatre hommes de tête. Bon, finalement, il a un peu craqué sur le final.
Non, mais il a fait un énorme boulot, hein, Kevin Vauclin, parce qu'il a roulé sur les 30 derniers kilomètres et pendant un moment, il était même tout seul et l'écart se stabilisait par rapport aux quatre hommes de tête. Donc, il retrouve des jambes, notre Kevin Vauclin.
Ouais, c'est de bon augure pour les semaines qui arrivent.
Très bon augure pour les semaines qui arrivent et sûrement dès mardi d'ailleurs.
Et oui, dès mardi avec l'étape du du Lioran, parce que demain ce sera repos pour tout le monde, et après-demain une étape qui va ressembler à celle-là en un peu plus dur encore, avec les routes du Cantal, les routes du Massif Central, où on espère que la bagarre pour le classement général ne se produira pas. Non, on veut assister à des étapes comme ça, GG. Ça, c'est le régal. Ah ouais. Ça, c'est le Tour de France qu'on
ça,
aime.
Ça, c'est le Tour de France. Ça, c'est les courses de vélo qu'on aime. Les courses de cadets, épimé, pas m'enormé, ça repart. C'était un festival aujourd'hui. On a été un peu frustrés ces derniers jours par le manque d'audace et d'attaque de certains. Bon, bah là, aujourd'hui, on a été régalés. Par contre, on a aussi vu que c'est toujours les mêmes. Et qu'il y en a certains, peut-être que sur les étapes de sprint, ils devraient commencer à se dire, je vais aller à l'avant, parce que sinon, on rentre à la maison, mes grands-parents, ils vont jamais savoir que j'ai fait le Tour de France. Parce que là, aujourd'hui, c'était réservé à Super Champion. Regardez la composition des 16 coureurs, regardez la composition des 8 coureurs, puis des 4 coureurs. Que des champions, que des mecs costauds passent partout, qui ont des super jambes. Et la victoire d'un immense champion, Mathieu Van Der Poel, c'est pas pour les petits bras, ces étapes-là. Quand on a traversé toute cette région, tout ce département de la Corrèze avec une chaleur incroyable, c'est un grand qui s'impose, et Mathieu Van Der Poel est un très très grand.
Et on est peut-être en train d'assister à la naissance d'un grand coureur français. Il nous a épaté tout au long de la journée, Alex Bodin, qui avait déjà réalisé un formidable Tour Auvergne-Rhône-Alpes il y a de cela un mois, qui a fait un très bon début de Tour de France, qui a porté le maillot de meilleur grimpeur, et qui aujourd'hui était dans les quatre avec que des champions énormes, immenses à ses côtés. Il a tenu son rang, même si on l'a senti un peu usé quand même en toute fin de course. Il n'a pas réussi à essayer d'attaquer, quoi.
Oui, il n'a pas pu attaquer, je pense, mais il était là avec les meilleurs dans le final. Il avait déjà fait un numéro en direction des Angres, rappelez-vous, avec Nicolas Prodhomme. Tu as parlé de son Tour Tara. Il marche vraiment très très bien, Alex Bodin. Il y aura d'ailleurs, pour ceux qui sont du côté de la Savoie, quand on aura le départ de Chambéry, un virage Alex Bodin. Ils sont en train de faire vraiment toute une grosse manifestation. Donc on pourra mettre les infos sur les réseaux sociaux, où vous pouvez m'écrire pour ceux qui veulent plus d'infos. Ils sont en train de faire vraiment un très gros truc. Ça va être sympa. Et là, on sent, nous on le découvre pas, bien sûr, Alex Bodin. Il avait gagné le Tour du Limousin justement en 2024, le classement général. Il connaît bien ses routes, mais c'est le Tour de France ou le Tara, voilà, les grosses courses World Tour, c'est là où tu te révèles aux yeux du grand public. Et aujourd'hui, il a montré qu'à la pédale, parce que c'est une échappée qui s'est fait à la pédale, il est capable de suivre les meilleurs sur des échappées pour Baroudeur.
Et Gégé, il reste 2 semaines évidemment, mais il a une bonne tête de vainqueur du prix de la super combativité du Tour de France, Alex Bodin.
C'est clair.
Il a déjà été échappé là, il est encore aujourd'hui devant, il arrive chez lui dans les Alpes, on sait que c'est un grimpeur, c'est un mec qui n'a pas peur, qui met tout sur la table. Il a vraiment le profil idéal pour gagner le prix du super combatif.
Effectivement, avec Weisstrofer aussi, qui est pas mal dans le genre super combatif, qui a déjà été élu.
Non,
c'est pas les mêmes étapes, et je pense qu'évidemment Alex aura plus de chances de se montrer dans les étapes.
Bon, il a porté le maillot à poids déjà sur ce tour, il est encore dans le classement, il marche bien, il n'est pas passé loin de la victoire, mais un profil comme lui, les deux ne sont pas incompatibles. Hein. On l'a vu dans une échappée en montagne. Voilà, tout peut se passer pour Alex Bodin.
Aujourd'hui dans l'intégral tour, grâce à Chris, partenaire majeur du Tour de France, vous allez pouvoir remporter un maillot blanc Chris dédicacé. Dédicacé par qui? Sans doute par le porteur actuel, Isaac Del Toro, pour tenter de remporter votre maillot Chris. Vous envoyez tour, T-O-U-R, au 7-32-16. Tour au 7-32-16. Nous partons faire un tour à Wimbledon. La bagarre a débuté entre Sinner et Zverev. Une bataille qui, pour l'instant, livre tout. Il livre tout, Sinner et Zverev. Il ne se lâche pas d'une semaine, mon cher Eric.
Ouais, c'est un combat de chef, il n'y a rien à dire. 3 jeux partout entre Yannick Sinner et Sacha Zverev. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être l'Allemand qui fait la meilleure impression depuis 25 minutes, parce qu'il frappe très fort au service. 138 miles, donc ça fait 200, plus de 220, notamment une pointe à plus de 220. Et en fond de course, je trouve très très bon, presque plus puissant que Yannick Sinner. Donc pour l'instant, c'est très équilibré. Sinner est au service, 3 partout, il mène 45. Donc c'est lui qui devrait faire la course en tête, peut-être jusqu'au tie-break.
Merci Eric, on revient vers toi dans un instant. C'est la première manche, on le rappelle. Donc 3 partout entre Sinner et Zverev. On rappelle le classement, on l'a déjà. Mais je crois que Romain Asselin est en train d'essayer d'attraper le papa du champion du jour, Adrie Van Der Poel, le père de Mathieu, qui a donc épousé la fille de Raymond Poulidor. Ils sont peut-être dans la maison familiale, pas très loin d'ici, je ne sais pas.
En tout cas, si tu veux, on peut rappeler le palmarès d'Adrie Van Der Poel.
On y va. Adrie Van Der Poel est avec Romain.
Sur les terres du grand-père Raymond Poulidor, la victoire de Mathieu Van Der Poel.
C'est super, hein.
On cherche déjà deux jours de victoire. L'équipe il marche bien, sauf il manque un peu de vitesse de Jasper. Bon, mais hier, j'ai trouvé le sprint, il était déjà mieux que son premier sprint. Donc, ça promet pour le futur et pour les deux semaines qui vont venir. Bon, et Mathieu, on a vu aussi, les derniers trois jours, il était déjà beaucoup mieux.
Mais racontez-nous ce que vous ressentez là. La fierté du papa ou ça va au-delà?
Oui, mais maintenant c'est un peu moins, bien sûr, parce que c'est 10 minutes passées. Mais j'étais super content pour lui, pour l'équipe, tout ce qu'ils font. L'équipe, ils font tout ça à leur manière. Ouais, chapeau pour eux.
Vous lui avez parlé avant l'étape? Pour lui dire, c'est peut-être ton jour aujourd'hui?
Jamais je parle avec lui avant, mais peut-être ce soir, parce qu'on est tout le temps dans le même hôtel, mais je lui laisse tranquille. Voilà.
Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir, André?
Comment?
Qu'est-ce que vous allez lui dire ce soir, Mathieu?
Je sais pas, j'ai deux heures pour réfléchir, qu'est-ce que tu vas dire?
Ah, la force de l'habitude, maintenant. Mais juste une réaction quand même sur les terres de Raymond Poulidor. Il y a une symbolique qui est très forte aujourd'hui sur les terres du Limousin.
Oui, mais hier c'était un peu pareil. Moi j'ai vu des choses que j'ai été voir 15 années passées avec les enfants. Et c'est vrai, ça fait quelque chose. Donc je suis sûr que ça fait quelque chose de gagner à un peu de moins de 100 km chez la famille Pouillidor.
Maintenant la suite pour Mathieu, juste dernière question.
Oh, je pense qu'il va commencer avec un jour de repos. Tout le monde en a besoin. Et après, on verra. Voilà, le premier, c'est fait. On ne parle pas une deuxième, mais ça peut.
La journée a été terrible hein, aujourd'hui. Hein.
C'était vraiment le jour le plus chaud, je trouve. Et je crois qu'ils ont fait une très bonne décision de le faire.
Merci. Merci beaucoup, Adrie, d'avoir réagi sur la RMC en direct.
Adrie Van Der Poel.
Adrie Van Der Poel par tous les médias. Oui.
Ah bah oui, mais évidemment. Évidemment, il est dans l'encadrement de l'équipe Alpecin, hein, c'est ça
C'est ce que j'allais dire. Il met la main à la pâte, en tout cas. Quand j'étais sur la moto, je l'ai vu passer des bidons au bord de la route. Et comme il vient de dire, il est aux hôtels avec eux. Donc oui, j'imagine qu'il doit donner un coup de main à l'équipe de son fils.
Adrie Van Der Poel, il accompagne les invités de l'équipe et les invités des partenaires. D'accord.
Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en 1988, de l'Amstel Gold Race en 1990, la Classique Saint-Sébastien également, deux victoires d'étape sur le Tour de France, et puis c'était aussi un champion de cyclocross comme son fils, champion du monde en 1996. Ouais, super coureur évidemment.
Et tu as oublié le Tour des Flandres, qui évidemment pour un flahut, un Hollandais ou un Belge, c'est quand même plus important presque que de remporter le Tour de France, hein, pour ces gens-là, les gens du Nord, donc mariés à une Poulidor, la fille de Raymond, et qui va donc s'imposer son fiston aujourd'hui, 17h41. On revient dans un instant sur la route du Tour. Enfin, la route est terminée pour aujourd'hui. Tant mieux pour les coureurs qui ont beaucoup donné sous une chaleur écrasante. Nous sommes à Ussel et c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
17h44, nous avons assisté aujourd'hui à la victoire d'un géant du peloton, Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, le franco-néerlandais, âgé de 31 ans, qui après avoir remporté 3 Tours des Flandres, 3 Paris-Roubaix, 2 Milan-San Remo, remporte sa troisième étape sur les routes du Tour de France. Pierre-Yves, il n'a laissé à personne le soin de le battre aujourd'hui. Ils étaient 4 dans le final, mais c'était écrit, c'est Mathieu qui devait gagner aujourd'hui.
Et c'était comme une évidence, exactement, sur les routes du Limousin. La famille ici, pas très loin, 100 km, disait Adrie Van Der Poel, de la famille Poulidor. Tu le disais, hein, 16 classiques remportés par Mathieu Van Der Poel. Immense champion, 31 ans. Profitons-en, ça va peut-être pas durer encore très très longtemps, mais quel beau coureur, Jérôme Coppel.
Quel beau coureur, voilà, faut pas dire tout son palmarès, sinon on en a jusqu'à demain matin, entre le cyclocross, le VTT, la route, c'est vraiment un coureur qui fait tout. Dire qu'il aurait
incapable de gagner une étape de la Vuelta quand même.
Il n'y a pas participé.
Bah ouais, c'est bon.
Et dire qu'il aurait pu être belge parce qu'il est né en Belgique, donc on aurait pu avoir encore une victoire belge. Non, mais moi j'adore ce coureur. Je disais en rigolant off qu'il m'énerve un peu. Il est beau, il est fort, sa copine est magnifique, il gagne en VTT, en cycle, il prend tout le mec, il laisse rien aux autres quoi. Non, mais c'est un super coureur et qui a un charisme incroyable quand même. Il dégage vraiment un truc. J'ai là la classe sur le vélo, même en dehors du vélo. Voilà, il dégage vraiment quelque chose de spécial, Mathieu Van Der Poel.
On repart faire un tour à Wimbledon. Il y a une belle de break pour Sinner dans le milieu de cette première manche, Eric. Hein, toujours aussi disputé.
Absolument, 4-3 Sinner. Oh là, il y a Sinner qui boise son coup droit alors qu'il avait engagé l'échange pour essayer de breaker l'Allemand. Ça, c'est inhabituel de la part de numéro 1 mondial. Mais ça devient tendu parce que à 30A, Zverev a commis une double faute. Donc, il a offert la balle de break. Donc, manqué par l'Italien. Donc, 4-3, 40A, Christophe.
Très bien, on revient te voir dans quelques instants. Tiens, on va écouter la réaction d'Alex Bodin, le coureur français de l'équipe IF Education. C'est EasyPost, c'est ça.
Education First EasyPost.
Ouais, parce que là, ça change tous les ans, donc je m'y perds. Alex Bodin, lui, on ne s'y perd pas. Il nous a régalé aujourd'hui, on l'écoute.
Je regardais les trois qui étaient avec moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et ouais, bah, il n'y avait pas grand-chose à faire. Si je commençais à jouer et pas passer, après, ça, on allait se faire reprendre. Je pense que dans tous les cas, j'étais battu à la fin. Là, c'est vraiment... aux qualités de punch par rapport à eux, j'ai rien à faire, mais voilà, je suis quand même content de l'échapper à Yobu parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi. Je crois que c'est UAE qui roulait derrière, je sais vraiment pas pourquoi. Donc je suis content qu'on aille au bout.
C'est impossible que je joue la gagne si on reste à 4 comme ça. Il y a des choses à faire, je sais pas moi, à 5 km, à 10 km.
Je pense pas parce que c'est sûr, à la télé, c'est facile de dire. À Bodin, il passe un peu trop. Mais si j'attaque sur le plat, ces mecs-là, ils sont beaucoup plus forts. Hein. Je l'ai senti, j'étais à fond là, pendant, je sais pas, 4 heures. Là, c'était à bloc tout le long. Donc, pour avoir la force d'attaquer faux plat descendant, même dans un faux plat montant, j'étais mort. On était tous à la limite. Mais je pense pas que je pouvais faire mieux aujourd'hui.
C'est des routes qui vous correspondent. On se souvient de vos victoires sur le Tour de Limousin. Pourquoi ça vous plaît autant, cette route-là?
Bah, c'est un parcours de costaud en fait. C'était une course de solide aujourd'hui. Et, bah, c'est pas, je dirais pas non plus que c'est ce qui me convient le mieux parce que voilà, à la fin, je me fais taper. Donc, c'est pas encore assez dur, mais ça montre que je suis en forme. Et si même sur un terrain qui est pas vraiment le mien, j'arrive à être devant, c'est bon signe.
Voilà Alex Bodin qui ne pouvait pas faire mieux. Je pense qu'il était vraiment taqué, pendu un peu dans le final. Franchement, c'est magnifique ce qu'il a fait. Tu te retrouves avec des cadors. Là, c'est des cadors avec qui il était.
Il dit, qu'est-ce que je fous là?
Mais justement, ça, c'est ce qui... Maintenant, il faut qu'il s'enlève ça de la tête. Maintenant, il a la place pour être ici. Il regarde droit dans les yeux maintenant. Donc ça, il faut oublier.
Il a pris deux barrettes supplémentaires sur l'épaule.
Il y a ça et il y a le... Je voulais qu'on aille au bout, mais... J'espère qu'il va étoffer son palmarès parce que faire 4 ou faire 10 dans le peloton derrière, c'est pareil. Il a été au bout, mais il s'est donné aucune chance d'essayer de gagner l'étape. Et ça, il va falloir qu'il passe encore un petit cap de confiance. Mais on peut expliquer ça aussi par le fait que bah, il s'est fait taper dessus toute la journée. Oui, il a souffert, mais il était devant. Donc ça veut dire qu'il avait un petit complexe dans le final qui l'a empêché de prendre des initiatives. Et ça, il faut qu'il passe à autre chose parce que
Il aurait pu le faire, Jérôme. GG, tu penses qu'il aurait pu tenter sa chance à quel moment là dans le final? Parce qu'on rappelle que derrière ça chassait, ça revenait très fort. Il fallait qu'il reste quand même uni pour avoir une chance. Et c'est quand même mieux de terminer quatrième que de se faire bouffer par le peloton, non? Bah, je sais pas.
J'ai envie de te dire non, parce qu'au final, on va pas s'en souvenir de sa quatrième place. Mais pour la confiance, c'est bien. Il a des bonnes jambes. Il a pas condamné l'échappée non plus. Et ça peut lui valoir des choses par la suite. On le sait. Hein, il y a des fois, on se rappelle des mauvaises choses. Mais dans le peloton, on peut aussi se souvenir des bonnes choses. Et Bodin, que ce soit l'équipe de Pidcock ou l'équipe de Johannessen ou celle de Van Der Poel, ils se rappelleront peut-être un jour dans une autre étape qu'il a continué de collaborer malgré son peu de chances de réussite. Donc voilà, il a bien fait de continuer à rouler. Par contre, il aurait peut-être pu tenter au pied de la dernière rampe, par exemple. Mais Gégé a raison, il avait plus les cannes. Je crois qu'il était complet. Et il a senti qu'il pouvait pas mettre une sacoche.
Non, il pouvait pas, et je pense que lui comme d'autres devait pas être loin des crampes aussi. Non, il a vraiment couru à la perfection et je pense qu'aujourd'hui c'était très bien pour lui d'accompagner jusqu'au bout l'échappée et de justement pas la condamner parce que voilà, tu l'as dit Gégé, niveau confiance etc, c'est très bien. Et puis on sait jamais quand même ce qui peut se passer dans la montée finale. Oui, Mathieu Van Der Poel, oui Tom Pidcock, mais Tom Pidcock finalement pas si saignant que ça, il y en a un qui crampe, il se passe quelque chose. Non, c'est une très très bonne journée pour Alex Bodin qui a rien à se reprocher.
On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans le tour sur la radio digitale 100% route, mais on évoquera quand même la stratégie. J'en parle parce que Mats Pedersen est
Lidl Trek actuellement. D'habitude, c'est du tableau noir. Aujourd'hui, c'est du tableau. J'ai pas de quelle couleur, attendez, mais pas du tout la bonne couleur.
On a quelques infos qui nous viennent après la ligne de la tactique et de la stratégie aujourd'hui chez certaines autres équipes. On est déjà à courir après la 10e et la 11e place. Hein. On a appris que notamment Netcompany a roulé. Ils ont roulé d'une part parce qu'ils ont gagné, mais surtout aussi parce qu'il y avait Johannessen qui pouvait repasser devant Bernal dans le top 10. On en est déjà là.
Jérôme Coppel n'a pas l'air de croire à ces histoires.
Non, j'y crois pas. Peut-être que c'est vrai, mais j'y crois pas. Je pense que c'était vraiment pour Ghana. Toute façon,
pourquoi Bernal n'a pas roulé alors?
Mais parce que tu veux qu'il fasse quoi? C'est pas lui qui allait permettre de ramener le peloton devant. Je veux dire,
il Bernal, peut donner quelques coups de pédale.
C'est pas, non, mais c'est pas à lui de le faire en premier. C'est quand même avant que ça soit Bernal. Ils ont Mats Pedersen. Arrêtez.
Mais les Netcompany.
J'ose quand même espérer que Netcompany et Egan Bernal, le premier qui a déjà gagné le Tour, se bat pas à la 8e étape, à la 10e étape pour une 10e place.
Non, mais je suis désolé. On voit certains leaders qui donnent pas un coup de pédale. Il y a certains leaders qui ne donnent pas un coup de pédale pour qu'un équipier gagne. Je pense à Mats Pedersen. Juan Ayuso, non. Je ne donne pas un coup de pédale. Il aurait pu faire un petit
c'est normal.
Mais non, je ne suis pas d'accord.
C'est normal. Le mec joue le podium du Tour.
Ah ouais, donc on en est là.
Mais bien sûr, c'est normal. Mais désolé, Ayuso, je suis d'accord. Kjell Moser,
je suis un peu moins d'accord. Ouais.
Voilà.
Mais il est dans
Pogacar,
les 8
on l'a pas vu
tour.
Rouler non plus derrière ses équipiers. Il n'a pas, pris de relais.
Pogacar, on l'a déjà vu parfois rouler à l'avant.
Pour Del Toro, c'est vrai.
Exactement.
Tu as raison. Et même lui offrir des victoires.
Exactement.
Bon, tellement au-dessus du lot que, effectivement, pour lui, c'est pas très compliqué. Victoire donc de Mathieu Van Der Poel ici à Ussel. Mathieu Van Der Poel qui attend derrière le podium protocolaire. Il est en train de discuter avec le porteur du maillot blanc, Isaac Del Toro. Formidable coureur lui aussi qui va sans doute bénéficier de cette journée de repos. On a vu encore une fois les UAE, Jérôme Coppel faire un gros travail aujourd'hui. Pour quelle raison? Là aussi on a un peu de mal à comprendre la tactique. Et Alex Bodin le disait le premier tout à l'heure.
Nous c'est encore plus dur à comprendre parce qu'on commente une course, mais même les acteurs qui sont dans le peloton ne comprennent pas non plus. Je pense que l'idée c'était de maintenir cette échappée pas trop loin pour peut-être se donner une chance d'aller quand même gagner si des équipes venaient les aider, comme ça a été le cas avec Netcompany et Lidl Trek. Parce que Tadej Pogacar, sur une arrivée comme ça, avec lui, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais je trouve, ils sont très forts, ils sont très en confiance, mais il ne faut pas être en surconfiance non plus. Hein, parce qu'aujourd'hui, je vois le mieux placé est à 9 minutes, mais laissez-leur 4-5 minutes. Qu'est-ce que ça allait vraiment changer pour l'équipe de Tadej Pogacar? C'est leur stratégie. Pour l'instant, elle est payante, donc tant mieux pour eux, mais il faudrait pas présumer de leur force et de leur énergie. Le tour dure encore 2 semaines.
Exactement. Le tour est loin d'être terminé, mais on vient de terminer la première partie de ce Tour de France après 9 jours de course. Demain, c'est repos. Ensuite, un début de semaine qui va monter crescendo. C'est un parcours pour les sprinteurs. Et puis, le week-end, lui, va être plus compliqué, plus corsé, hein, Jérôme.
Oui, c'est ça. Donc, mardi, étape vers le Lioran qu'on connaît un petit peu, donc déjà dur. Après, mercredi, jeudi, étape pour les sprinteurs. Vendredi, ça y est, on a déjà le ballon d'Alsace avant l'arrivée à Belfort. Et après, vraiment, samedi et dimanche, avec l'arrivée au Markstein et surtout au plateau de Solaison le 19 juillet, jour de la finale de la Coupe du Monde aussi. Là, on va avoir vraiment une grosse explication, je pense, la veille de la deuxième journée de repos.
Voilà, et puis la troisième semaine, on ne va pas vous la rappeler. On vous en parlera dans quelques jours. Mais là, ce sera, on l'espère, le feu d'artifice, même si le feu d'artifice s'est fait un peu mouiller. Hein. Ça arrangerait, nous aussi, de nous faire un peu mouiller par quelques orages. Il y a Maria qui vient de viens nous dire deux mots, Maria. Maria qui était sur la moto.
Les crevisses de
Jean-Zé. La bouteille d'eau fraîche.
C'est le meilleur cadeau de la journée.
T'as pas réussi à en choper auprès de la moto fraîcheur avec la.
Non, pas la moto.
On lui a fait.
Ah, la voiture.
La voiture, oui.
Il
la
a
voiture.
Fait une bonne pub quand même à ton copain de la moto.
Ils m'en ont redonné une aujourd'hui. Ah, souvent, je sers de stratégique. Alain, oui. Ouais. Mi-étape, comme ça me recharge un peu les batteries pour repartir.
Mais non. Tu bois une seule petite bouteille d'eau?
Non, bah après, j'ai mon eau chaude, mais c'est une tisane, quoi.
Bien sûr.
D'accord. Tu mets un peu de menthe pour faire un thé à la menthe?
Non, j'aime pas la menthe. Non, c'est une très belle étape, magnifique étape, on s'est régalé.
Ouais. Bon, demain, tu vas pouvoir bronzer un peu, non?
Ah, je vais dormir sans tout. Vous n'êtes pas prêts de me voir. Hein.
14h.
Demain, on avait prévu une balade dans la montagne, non?
À 7h.
À 7h à la fraîche.
C'est même pas la
fraîche. On va la voir demain soir pour l'apéro vers 18h. Je pense pas avant.
Là, il n'y aura pas que la bouteille d'eau. Ouais,
merci de nous avoir raconté ce qui se passait sur les routes de cette 9e étape du Tour de France. On repart à Wimbledon, la première manche, mais vraiment disputée comme jamais. On se croirait sur une étape du Tour presque avec Salio, tellement ça se bagarre, ça se castagne.
Ah, et pourtant, il n'y a pas de relief hein, sur le central du Centre Court à Wimbledon. Là, je vérifie. Non, c'est un super match, 5 partout. Zverev est vraiment au contact. J'estime même qu'il livre une meilleure impression. Tout à l'heure, il a lâché un passing absolument monumental qui a fait lever le stade. Même dans la Royal Box, ils ont été à deux doigts de se lever. 5 partout. Il a eu une petite alerte tout à l'heure, mais la balle de break, il l'a effacée. Ou plutôt, Sinner a commis une grosse erreur en coup droit. Il a décentré, donc non, ça, à mon avis, on va tout droit vers le tie-break, hein, je vous le dis franchement, dans cette finale passionnante entre Sinner et Zverev, 5 partout.
À tout à l'heure, Eric. Pierre-Yves, avant de passer l'antenne à Arnaud Valadon, on rappelle des classements du jour et la victoire de...
Allez, surtout ce classement de l'étape, la victoire de Mathieu Van Der Poel, ici à Ussel, dans le Limousin, devant Tobias Johannessen, Tom Pidcock et le Français Alex Baudin. Les échappés ont damé le pion aujourd'hui au peloton, ou ce qu'il en restait, parce qu'il n'était pas très épais.
Merci Pierre-Yves, on te retrouve tout à l'heure à 19h pour l'after, et si vous voulez continuer de parler, d'entendre parler vélo, ben rendez-vous tout de suite sur la radio digitale 100% route, la libre antenne dans un instant, et puis donc à 19h l'after. Merci à tout le monde.